Si vous êtes là pour la première fois, vous ne savez pas qu'on est dans une série sur le livre des Actes. On est au 51e message et on est dans le chapitre 20 et on va parcourir les versets 1 à 12. Vous avez le titre derrière, la séquence du passage qu'on va étudier. Un passage hyper intrigant, en fait. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Mais avant de rentrer dans le texte, j'aimerais juste vous raconter une histoire, une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. On revenait du rassemblement de Pâques à Genève qui rassemble 1200 jeunes. J'avais été orateur, donc vous imaginez, j'ai prêché devant 1200 jeunes, j'ai animé des ateliers, j'ai accompagné des participants du matin au soir, on avait des invités qui dormaient aussi à la maison. Et donc vous imaginez un week-end très intense. Et ensuite, il y avait les vacances, donc du coup, on est monté à Paris. Et puis, j'avais une aspiration, c'était de me reposer. Pendant la semaine, j'ai été occupé à faire des travaux chez mes beaux-parents. Et le dimanche, j'arrive au culte dans leur église. Du coup, je connais deux, trois personnes, mais bon, j'allais dans l'église de mes beaux-parents, comme vous, ce matin. On assiste au culte, et là je m'assieds, et je me détends, je me dis pour une fois, je ne suis pas derrière le micro, je suis assis sur ma chaise. Et le temps de louange se passe, tout le monde chante, c'était merveilleux. Et puis au moment de transition entre les chants et la prédication, il y a l'animateur du culte, le président, qui regarde un de ses collègues dans l'assemblée et qui lui dit « Ben, pourquoi tu viens pas ?» Et l'autre lui dit « Moi, ben non, c'est pas mon tour. » Il se regarde, on sent qu'il y a un quiproquo qui s'installe, le malaise qui grandit et on comprend que le prédicateur ne savait pas qu'il devait prêcher ce jour-là. Et le pasteur se tourne vers moi et il fait « Franck, t'aurais pas un petit message à nous réchauffer ?» Et là, dans ce genre de situation, on est un peu piégé. Hein. Parce que si je dis non, il va me dire « c'est quoi ce pasteur ?» Et alors je lui dis « ok, j'ai rien préparé, mais je peux faire du réchauffé au micro-ondes, si tu veux, mon message de dimanche de Pâques. » J'avais prêché, alors c'était pas Pâques, j'avais prêché à Pâques, mais c'était sur la parole de Dieu, sur la fiabilité de la Bible. Et puis, bien sûr, le pasteur a accepté hein, la proposition. Du coup, j'ai prêché. Et puis, à la fin de la rencontre, donc je m'arrête de prêcher. Et là, il y a une dame qui vient, qui s'approche de moi et qui me dit « Comment vous saviez que je doutais de la véracité de la Bible ? Vous avez répondu point par point à toutes mes questions. » Et moi, je ne savais pas. Je connaissais même pas ces gens qui étaient là. Cette personne était là de passage et je savais rien d'elle. Mais Dieu, lui, il savait. Dieu savait. Et ce matin, eh bien, on va étudier aussi un passage du livre des Actes qui m'a rappelé ce dimanche parisien. Un homme en route, fatigué, bousculé dans ses plans et pourtant toujours disponible, toujours là où il faut, toujours utilisé au-delà de ses propres forces. Et cet homme n'est autre que l'apôtre Paul. Et le portrait que Luc trace de lui en acte 20, versets 1 à 12, pourrait se résumer par ce titre en fait. Toujours en route, jamais à la dérive. Allez, je vous invite à lire avec moi, soit vous prenez vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 20, soit vous pouvez suivre ici directement sur le texte. Sur l'écran, pardon. Alors je lis à partir du verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il traversa ce territoire en adressant aux gens de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce. Il fit un séjour de 3 mois et il était sur le point de faire voile vers la Syrie. Mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage, boum, et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Je vous avais prévenu, c'est un passage intrigant. Intrigant mais puissant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé étudier ce texte. J'ai découpé en trois parties. La première, pour montrer un petit peu cette progression de l'évangile. L'évangile progresse malgré les obstacles. Ça, c'est un titre qu'on pourrait mettre quasiment tout au long du livre des Actes, parce que c'est la nature même du livre des Actes de montrer l'expansion du christianisme au premier siècle. Et donc, on pourrait, à travers quasiment chaque passage, montrer cette progression. Ici, elle est assez évidente et on va le regarder de plus près. Luc, il commence au chapitre 20, au début du chapitre 1, à nous démontrer que Paul est en mouvement. Il voyage, il commence son voyage ici. Il vient de quitter Éphèse, alors qu'il vient de passer trois années consécutives. C'est très rare quand l'apôtre Paul passe autant de temps, et vous l'avez lu comme moi tout à l'heure, il a passé une semaine à un endroit, un jour à un autre, et là il reste 3 ans. Donc c'est dire combien la ville d'Éphèse était une ville stratégique pour l'apôtre Paul. Et donc, à Éphèse, pendant ces 3 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses, notamment des oppositions répétées qui l'ont conduit à prendre les disciples et à les mettre à part. Mais à la fin, il y a eu une émeute assez grave qui a failli soulever le peuple contre les chrétiens. Et par miracle, ils s'en sont bien sortis, mais ça aurait pu tourner sérieusement au vinaigre. Paul va donc reprendre son sac à dos, sa boussole et ses sandalettes, mais c'est pas pour faire une course d'orientation ni du tourisme. Et le verset 2 nous montre un petit peu ce qui occupait ses voyages. Il traversa ce territoire en adressant de nombreuses exhortations. Et là, on a le cœur du ministère de l'apôtre Paul. C'était l'exhortation. Paul était un exhortateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exhorter ? Eh bien, il est traduit par plusieurs mots dans le Nouveau Testament. La plupart du temps, alors c'est le mot parakaleo, d'accord ? On va y revenir à ce mot parakaleo parce que vous connaissez probablement le mot paraclète, parakletos. Ça vous dit des choses ? On va y venir. Dans le Nouveau Testament, il est traduit souvent par exhorter. Le plus souvent, c'est le mot exhorter, mais parfois c'est le mot défendre, le mot encourager ou même consoler. Donc vous voyez, on est dans le même champ sémantique ici. On prend des choses qui sont difficiles et on va les relever. Okay, on va accompagner, on va secourir. Et c'est vraiment le sens de ce verbe-là, exhorter. Et je vous disais qu'il était utilisé aussi comme terme, comme mot, le mot parakletos. Là, c'est le verbe parakaleo, mais il y a le nom, et ça signifie avocat, défenseur ou consolateur. Et vous le trouvez ici en Jean 14, 26. Alors, c'est le mot paraclète, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Or, nous sommes chrétiens, et qu'est-ce qui est ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est en vous. N'est-ce pas ? Si le Saint-Esprit est en vous, dites-le, le Consolateur est en vous. Et donc, il va vous influencer. Et donc, quand on est rempli de l'Esprit, on va avoir cet état d'esprit de consoler, d'exhorter, d'encourager les autres. Okay ? Ça fait partie de la vie chrétienne. Bien sûr, Paul est un modèle, un exemple, mais c'est vraiment ce que nous devrions être conduits à faire au travers de l'Église, à nous consoler, nous exhorter les uns les autres. On l'a ce commandement, si vous relisez Éphésiens, Colossiens, vous pouvez même relire l'Épître aux Hébreux, vous allez trouver ces encouragements à s'enseigner les uns les autres, à s'encourager les uns les autres. Et on le retrouve à plusieurs reprises. Là, c'était juste pour le fun. Le mot parakletos, c'est un adjectif verbal substantivé. Ça vous embouche un coin. C'est bien à sortir dans une phrase comme ça pendant un repas avec vos collègues. Non, ça c'est juste pour la blague. Mais c'était pour que vous puissiez voir un petit peu comment est composé le mot. Le mot parakaleo, c'est para, ça veut dire à côté de, et kaleo, c'est le verbe appeler. Ok ? Donc littéralement, celui qui est appelé à côté. Nous, on l'a en nous, mais le Saint-Esprit, il est appelé à côté de nous. Il est là pour nous accompagner, pour nous assister, pour nous venir en aide. En d'autres termes, Paul ne voyageait pas pour alimenter ses publications sur les réseaux sociaux en se prenant en photo. Hein. Bon, déjà, l'appareil photo n'existait pas, mais il n'était pas là pour faire du tourisme, mais pour parakaleo les chrétiens et les églises, c'est-à-dire pour les assister, les soutenir, les encourager à tenir bon, parce qu'il sait que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est ce que disait Ruben ce matin. La vie chrétienne, elle cogne. La vie tout court cogne. Ça fait mal. Je lisais cette semaine un psychologue qui disait pourquoi il y avait autant de dépression, c'est que les gens pensent qu'ils sont ici sur Terre comme s'ils étaient au paradis. Et on s'aperçoit que dans n'importe quelle situation, même les bonnes, elles finissent toujours par ternir au bout d'un moment. Celui qui n'a pas de travail, il se plaint parce qu'il n'a pas de travail. Mais celui qui a un travail, il finit par se plaindre parce qu'il a un travail et que c'est dur d'aller au travail tous les jours. Celui qui n'est pas marié, il va se plaindre qu'il n'est pas marié parce qu'il est seul et qu'il souffre de la solitude. Mais celui qui est marié, il va souffrir au bout d'un moment parce qu'il en a marre d'être à côté de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai les couples là ? En fait, on n'est jamais content. C'est la nature humaine qui est comme ça. Et on doit s'y préparer. Donc la vie, elle cogne, mais en tant que chrétien, elle cogne deux fois plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a fait allégeance avec le nouveau capitaine de notre âme, Jésus, on est placé automatiquement, instantanément, dans l'équipe de Jésus et donc contre l'ennemi. Et vous savez qui est le capitaine de l'autre équipe ? C'est le diable, Satan, avec son équipe de démons. Okay. Et on est dans un combat spirituel, que vous le vouliez ou non, que vous croyez ou non aux démons. La Bible l'affirme et on le voit, on l'expérimente. Vous êtes en guerre spirituelle et cette guerre, elle est réelle, elle va se manifester dans le monde matériel, mais c'est une guerre spirituelle. Pourtant, la Bible dit que le diable a été vaincu à la croix. Jésus a écrasé le diable, n'est-ce pas ? Et alors on se dit, mais pourquoi on est en combat spirituel si le diable a été vaincu ? Ah, alors il a été vaincu, effectivement, mais sa sentence définitive, elle n'est pas encore exécutée. Il est toujours actif. En fait, le diable exerce un pouvoir réel sur le monde. Et là, je vous renvoie à Éphésiens 2:2, 1 Jean 5:19. Jusqu'au jour où il sera jeté dans les temps de feu, Satan fera la guerre aux croyants qui témoignent dans ce monde. Il fera tout pour freiner l'expansion du royaume de Dieu et accuser les élus de Dieu. Et pour ça, il ne manque pas de moyens. Parce que depuis la création d'Adam, il a eu le temps d'analyser les hommes et développer des stratégies. Et regardez ce que la Bible dit. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais au moins quelques éléments pour vous montrer son ministère. Il est spécifiquement là pour perturber la vie des églises. Vous pourrez lire tous ces versets à la maison. Pour pousser les chrétiens à la persécution, il va exciter des querelles volontairement contre nous. Aveugler l'intelligence des non-croyants, tenter les chrétiens dans leur intimité, appuyer là où ça fait mal dans nos faiblesses. Il va soumettre les chrétiens à sa volonté. Il nous met dans des pièges, dans des addictions, toutes sortes de choses où il va exacerber nos faiblesses. Et il nous fait peur en nous terrorisant. La Bible le décrit, hein, c'est dans ce dernier texte, 1 Pierre 5, comme un lion rugissant. Un lion rugissant, en fait, il n'a pas besoin de bouger. Il paralyse ses proies parce qu'elles ont peur. Il pousse un énorme cri et l'antilope, elle est complètement paralysée, elle ne bouge plus. Inoffensive. Il n'a même pas besoin de courir. Il l'attrape comme ça. Alors c'est schématique ce que je dis là, caricatural, mais ça reflète une réalité. Cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres manières dont le diable peut agir dans notre monde. Mais ce que j'aime, c'est le livre de, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, de C.S. Lewis, Tactique du diable. Et le sous-titre, c'est Lettre d'un vétéran de la tentation à un novice. C.S. Lewis, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Hein, vous connaissez probablement, c'était un grand professeur de littérature qui enseignait à Oxford et à Cambridge. Et donc, il a écrit ce livre et à l'intérieur de ce livre, voilà quelques citations croustillantes. Regardez ce qu'il dit. Une religion... Alors, attendez, je crois que j'ai avancé un peu trop vite. Voilà. Certaines époques sont tièdes et complaisantes. Notre travail est alors d'endormir les croyants encore plus profondément. Ça, mes amis, je le vois tout le temps. Et c'est pas d'aujourd'hui. Il a écrit son livre en 1942. Prenez le voyage du pèlerin. Alors lui, il est écrit carrément au XVIIe siècle. Il dit les mêmes choses. Donc c'est vraiment une tactique du diable. Une autre citation. Une religion modérée nous est aussi utile qu'une absence totale de religion et plus amusante. C'est subtil. Vous voyez ? Quelque chose de modéré. T'es tiède en fait. Ni chaud, ni froid. Juste tiède. Juste ce qu'il faut pour t'endormir en fait. Un bon bain bien tiède. Il n'y a rien de mieux. Peu importe la petitesse des péchés, pourvu que leur effet cumulatif soit d'éloigner l'homme de la lumière et de le pousser vers le néant. Le meurtre ne vaut pas mieux que les cartes, si les cartes font l'affaire. Les cartes, c'est les cartes à jouer, hein ? Donc le divertissement. En vérité, le chemin le plus sûr vers l'enfer est le chemin graduel, la pente douce, moelleuse sous les pieds, sans tournant brusque, sans borne kilométrique, sans panneau indicateur. Voilà pourquoi Paul voyage et revient dans les églises qu'il a implantées. Voilà pourquoi il paracaléo les chrétiens. En fait, il connaît les tactiques du diable et il refuse de laisser ses frères et sœurs glisser sur cette pente glissante qui les éloigne de Jésus et de la foi vivante. Mais regardons maintenant d'un peu plus près le verset 3. Regardez ce que dit Luc en parlant de Paul. Il y fit un séjour de 3 mois et il était sur le point de faire voile vers la Syrie, mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Et c'est là, dans ce genre de récit, où on voit que Paul, il avait un plan sur du long terme. Il ne se laisse pas interrompre par quelque chose qui ne se déroule pas comme il l'a imaginé sur son parcours. Il a un plan beaucoup plus lointain, voyez, des objectifs de vie, des priorités de vie. Et c'est ça qui l'oriente tout le temps. Ici, on voit qu'il a son plan. Je vous ai mis une petite carte. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Il est à Éphèse, ici. Voyez, là, c'est la Grèce. Ici, on est en Asie, l'Asie mineure est ici. Donc il est à Éphèse, et donc il va mettre 3 mois pour faire ce parcours-là, pour arriver jusqu'à Corinthe. Il arrive ici à Corinthe, et là il décide d'aller ici, en Syrie, à Antioche, pour aller célébrer la Pâque. Au départ c'était ce qu'il voulait, puis il a dû annuler, et donc il veut quand même y aller pour la Pentecôte. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il a prolongé, il a fait durer le voyage. Il a mis 3 mois pour faire ça. 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il est resté dans différents lieux. Et c'est là où il a aussi recruté son équipe. On y viendra juste après. Mais là, il apprend que, alors qu'il décide de prendre le bateau à Corinthe, ici, et d'aller jusqu'en Syrie, ici, il apprend qu'il y a un complot contre lui. On veut le tuer. Qu'est-ce que vous feriez à sa place ? Et là, c'est vraiment une question ouverte. Pourquoi ? Parce que si vous lisez le chapitre d'après, vous allez voir que Agabus le prévient que s'il va dans une direction, s'il va à Jérusalem, hein, et vous vous rappelez cette ceinture, on va y venir, c'est dans deux messages, pas la semaine prochaine mais celle d'après. Il y a Agabus qui va lui annoncer qu'il va souffrir à Jérusalem. Et toute l'église qui est là avec Agabus lui dit « N'y va pas !» Et qu'est-ce que va faire Paul ? Il dit « Si, j'y vais, j'ai pas peur de mourir. » Vous voyez ? Donc, le chapitre 21, il réagit comme ça, mais ici, il ne se jette pas dans la gueule du loup. Donc, vous voyez, c'est pas... Selon la situation, l'apôtre Paul fait des choix stratégiques. Et ça, ça nous dépasse, mais c'est la réalité. Dans le chapitre 20, il change de direction. Il prend une direction parce qu'il n'a pas envie de mourir maintenant. Non, j'ai d'autres choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il repart en arrière et il va refaire exactement le parcours dans l'autre sens. Donc, il a exhorté les églises dans ce sens-là et maintenant, il va les exhorter dans l'autre sens. Et pourquoi il fait ça ? Bon, déjà, c'est pour éviter le conflit, mais il va recruter au passage toute une équipe. Toute une équipe. Il les a exhortés à l'aller, et puis quelque part, Dieu va utiliser ce détournement, providentiellement, mais pour qu'ils puissent recruter, ça va être le deuxième point. Mais j'aimerais quand même attirer ici votre attention sur un détail théologique qui me semble important. Ici, la vie de Paul est en jeu. Hein, et pourtant, on sait que l'apôtre Paul, c'est quand même l'outil principal que Dieu va utiliser pour répandre et faire grandir le royaume de Dieu. Donc sa vie est en jeu, et pourtant ici dans cette situation, Dieu ne lui envoie pas de vision, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de voix qui vient du ciel qui lui indique la route à suivre, contrairement à ce qui s'est passé en acte 16. Hein. Quatre chapitres avant, on voit Paul qui ne sait pas quoi faire, il arrive dans la ville de Troas, il a eu des portes fermées un peu de partout, il arrive dans cette ville, et là au milieu de la nuit, il n'est pas en train de prier, il est en train de dormir. Souverainement, Dieu intervient et lui donne une vision d'un Macédonien, un soldat macédonien, et il dit « Ah, ok, la Macédoine, c'est où ?» Lui, il était à Troas, ici, et ici, c'était la Grèce. Donc, il était en Asie, hein, le bout de l'Asie, là, l'extrême bout de l'Asie, et là, il a cette vision, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, au lieu de continuer sa route ici, le long des côtes, il va traverser la mer. Pardon, j'ai avancé d'un cran, là. Oula, ouais. Il va traverser la mer. Et c'est grâce à sa vision qu'il va arriver à Philippe, qu'il va avoir Lydie, la marchande de pourpre. Et dans ce cas précis, Dieu lui donne une vision. Donc vous voyez, quand on veut prendre le livre des Actes, il faut faire très attention. Parce que si on prend juste le chapitre 16, on se dit « Ah, quand il y a un mur qui se présente devant moi, Dieu va me donner une vision. » Eh ben pas forcément. Pas forcément. C'est pas le cas ici. Aucune vision. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prit la décision. Il prit, le texte est clair, il prit la décision de changer d'itinéraire, tout simplement, de rebrousser chemin. Il fait demi-tour. Ok, il y a un complot ici, je ne peux pas prendre le bateau, donc qu'est-ce que je fais ? Il y a le G7, je ne peux pas passer la frontière, eh bien je reviens en arrière, je reste chez moi. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on va faire la semaine prochaine entre nous, hein ? On a dû annuler le culte parce qu'on n'a plus cette salle. On aurait dû se rejoindre, faire notre assemblée générale, et on a dû changer nos plans. Alors vous voyez, c'est très bien qu'on ait ce texte-là, parce que c'était indépendant de nous. Hein. On a prévu depuis des mois qu'on allait avoir l'assemblée générale, et c'était important. Et puis, ben voilà, circonstances extérieures qui nous contraint de changer nos plans. Mais vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle de tout ça. Il sait. Pas d'inquiétude. Et Paul avance par la foi. Il aurait pu rester à Corinthe et se lamenter. « Oh, je ne peux pas aller en Syrie, il y avait ma famille qui m'attendait, l'église m'y attendait, je devais recevoir mon soutien. » Il aurait pu se plaindre. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il avance par la foi. Et c'est lui qui va encourager les Corinthiens, alors qu'il y est à Corinthe. Quand il est à Corinthe, 2 Corinthiens 5, 7, mémorisez-le par cœur ce verset, parce qu'aujourd'hui vous en avez plus jamais que besoin, vous avez plus besoin que jamais, c'est mieux dans ce sens. On est dans une génération où on cherche des signes, on veut voir des choses, on veut que Dieu nous parle directement. Là, je vous renvoie à une parole que John Piper a dit dans un message. Si tu veux entendre la voix de Dieu, mon ami, tu prends ta Bible et tu la lis à voix haute, et là, tu vas vraiment entendre la voix de Dieu. C'est la seule parole qui est fiable. Est-ce que Dieu peut parler? Oui, il peut parler, mais c'est rare, les amis. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5:7? Marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'un chrétien qui marche par la vue, on peut se poser la question, est-ce qu'il est chrétien? On est là pour marcher par la foi. On fait confiance à Dieu, les amis. Mais on ne s'arrête pas. On continue d'avancer. Paul a eu des portes fermées. Il a été emprisonné. Il s'est pris des murs, vraiment, littéralement. Il a été battu de verge. Il a dû jeûner des dizaines de jours. Souvent dans le jeûne, souvent j'ai été attaqué. Relisez 2 Corinthiens 12, vous allez voir, la liste, c'est hallucinant. Il ne s'est jamais découragé. Pourquoi? Parce qu'il continuait d'avancer par la foi. Et ça, c'est notre quotidien, les amis. Dieu peut faire des miracles. Amen, alléluia. Et on est les premiers ce matin à avoir prié pour des malades. Ça veut dire Dieu intervient dans notre quotidien. Ok? Donc ça veut dire qu'on pense que Dieu peut agir. Sinon, on ne prierait pas. Hein. Moi, je ne prierais pas le matin en me levant. Seigneur, transforme mon cœur. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas vivant, on ne prierait pas pour nos malades. On n'imposerait pas les mains à ceux qui sont malades. Et là, on voit que c'est notre quotidien. Nous, on doit marcher par la foi sans la vue. Je vais vous donner une illustration qui est un peu personnelle, mais qui me touche. Parce que je vois deux situations. La première, c'est mon épouse, Sandrine. Vous savez qu'elle a trouvé un travail après avoir répondu à une seule annonce, envoyé un seul CV et une seule lettre de motivation. Et elle est arrivée devant 90 autres candidats. Rapidement, simplement. Mon fils, lui, il a envoyé des dizaines de CV. Il a adapté chaque lettre de motivation. Il a appelé des dizaines d'entreprises. Il a créé un profil LinkedIn. Et à ce jour, il n'a toujours pas trouvé de job. Même famille, même prière. Alors, si je vous dis ça, c'est que vous pouvez aussi prier pour mon fils, hein. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est la grâce. L'une, c'est la grâce de la rapidité, l'autre, c'est la grâce de la formation. Dans sa providence, Dieu a choisi d'agir vite pour Sandrine. Dans le cas de Lenny, il permet l'attente et appelle à la persévérance, ce qui est aussi une forme de grâce, même si elle est un peu plus difficile à recevoir, j'avoue. En tout cas, deux personnes, deux chemins différents, un seul Dieu souverain. Et dans les deux cas, que la route soit courte ou longue, directe ou détournée, l'appel est le même, avancer par la foi. Allez, je fais une petite application. Ça évitera d'en avoir trop à la fin. Est-ce qu'il y a dans ta vie un obstacle que tu interprètes comme un signe que Dieu t'a abandonné, alors que c'est peut-être simplement un détour providentiel? Y a-t-il un appel que tu n'as pas encore suivi parce que tu attends une confirmation surnaturelle alors que Dieu t'a peut-être déjà donné tout ce qu'il te faut pour avancer? Dans tous les cas, accroche-toi, tiens bon. Paul a aussi fait un demi-tour. Ce n'était pas un échec, c'était le chemin souverain et providentiel de Dieu. Et c'est peut-être ton cas. J'arrive à mon deuxième point. L'évangile progresse en équipe. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ici? Si ce n'est pas un secret, évidemment. Pas de femmes enceintes? Dommage. J'avais une liste de prénoms pour vous. Et il y en a même pour des jumeaux. Regardez le texte. Il avait pour l'accompagner Sopater. Sympa comme prénom. Fils de Pyrrhus. Pyrrhus. Il n'y a pas Pyrrhus, mais il y a Pyrrhus. C'est le fils, quoi. De Béré, Aristarque et Secondus. Allez, il y a Tony Stark, hein. Tony Stark, c'est quand même connu pour ceux qui regardent les Marvel, là. Là, il y a Aristarque. C'est quand même la classe d'avoir un prénom qui ressemble à Iron Man. Donc, Aristarque et Secondus de Thessalonique. Vous savez, vous avez le droit de rire, là. Je vous vois comme ça. Il nous fait ses blagues à deux balles, là. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Ah, non, je vous demande pas d'applaudir. Mais voilà, juste réagir, vous savez, ça, je me dis, tiens, ils sont pas morts complètement. Pas totalement endormis. On va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir à l'endormissement. Timothée ainsi que Tychique, Trophime, originaire d'Asie. Donc, vous voyez, sept prénoms ici. Et qui sont ces gens? En fait, c'est pas un détail ici, c'est une liste théologique. Théologique. Vous avez vu d'où viennent ces gens? Si je revenais à la carte, Bérée, Thessalonique, Derbe, c'est sur le chemin où Paul a affermi les églises. Il est allé exhorter les croyants dans ces églises. Et qu'est-ce qui ramène avec lui? Des gens de ces églises. Des églises qui ont été implantées environ 5 ans avant son premier voyage. Et donc, ça signifie qu'en 5 ans, ces gens-là, soit ils étaient des étudiants dans un institut biblique et là ils étaient en stage pratique avec l'apôtre Paul, soit c'était des délégués des églises envoyés avec Paul pour la collecte. Donc ça peut être aussi ça, on le voit dans 2 Corinthiens. On ne sait pas exactement leur statut, mais on sait que c'est des gens qui étaient des églises. Donc probablement que ces églises-là les avaient envoyés. On a pris les meilleurs. Et c'était des missionnaires des églises. Quand il dit les envoyés, les apostolos, c'est la traduction du mot missionnaire. Les envoyés, vous voyez, les gens qui sortent de chez eux pour partir ailleurs, ce sont des missionnaires. Et c'est ce qu'il faisait avec Paul. Il voyageait. Alors on va peut-être dire que c'est un voyage courte durée parce que ça dure que 3 mois, mais quand même, ils sont avec l'apôtre Paul. Et donc, vous voyez, la stratégie de Paul, c'est qu'il profite de ce détour pour former des disciples. Et il va former ces gens nuit et jour. Hein, quand on voyage, là probablement que c'était soit dos de chameau, de cheval ou à pied. Ils prenaient le bateau quand il y avait des portions, mais la plupart du temps sur les terres, ils étaient à pied, ils marchaient. C'était long, on avait le temps de discuter. On avait le temps de discuter et de refaire le monde. Et c'est dans ces moments-là, finalement, qu'il y a les meilleurs moments de formation. Vous savez, moi j'ai enseigné, j'ai eu plusieurs stagiaires dans ma vie, et ce que j'ai observé, ce qu'ils retiennent quand on les voit des années plus tard, une fois qu'ils ont fini leur stage, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ce sont tous les moments qu'on a vécu ensemble, pas forcément les prédications. Prédication, ça va donner un ensemble. Ah, il y a un sérieux vis-à-vis de l'écriture, on prêche le texte, ça c'est les grandes lignes. Mais tout le reste, le caractère, les moments forts ont été à côté de ces moments d'enseignement. Et ça validait quelque part, ça authentifiait le cœur du formateur. Et donc, c'est comme ça que les stagiaires ont pu s'identifier aussi le mieux. Mais c'est dans le tous les jours. Et donc, prendre les gens avec soi. Et ça, c'était une des manières que faisait Paul, que Paul utilisait. Et il nous demande de le prendre en exemple. Philippiens 4, 9. On va le lire ensemble. Mais c'est très fort ce texte. Regardez, c'est pas simplement son enseignement. Philippiens 4, verset 9. Si mes souvenirs sont bons, c'est le 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, vu en moi. Ça, c'est pas des paroles, hein. C'est ta vie. Pratiquez-le ou mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez, il nous demande d'observer l'ensemble de sa vie, pas simplement ses propos, mais toute sa vie. D'observer toute sa vie, c'est important. De pas simplement être dans une salle de cours. Vous savez, moi, j'ai formé des évangélistes. C'est pas dans une salle de cours qu'on forme des évangélistes. C'était dans un café que je les formais. Et je leur disais, écoute, soit tu t'assieds, tu observes, soit tu viens avec moi et tu fais. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils commençaient par observer, et au bout d'un moment, ils venaient derrière le comptoir, et ils venaient avec moi, et on servait, et les interactions se font naturellement. Mais voyez, je pouvais l'enseigner dans une classe, mais quand on est sur le terrain, ça parle tellement plus fort. Tellement plus fort. Et c'est pour ça qu'il prenait des gens avec lui pour les former. C'est pour ça qu'à l'Institut biblique de Genève, on a compris ça et qu'on ne forme pas seulement l'intelligence. C'est important. mais on forge aussi le caractère au travers du service. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette formation. Taïmen est là et il fait oui. En 2009, j'ai lancé un café collaboratif à Dijon et il a duré une douzaine d'années. Et on venait juste de signer le bail. Et donc, on avait loué un bâtiment, mais il y avait tout à faire. C'était dans un état déplorable. Et donc, 4 mois de travaux. Le jour où on a signé, un jeune est arrivé dans l'église, un jeune converti. Il avait la dalle, il avait soif et il avait du temps. Il avait fini ses études. Il m'a dit, écoute, j'ai 4 mois de dispo devant moi. Je dis, ça tombe bien, j'ai 4 mois de travaux de dispo devant toi. Et donc, nous voilà partis à mémoriser la parole, à écouter la parole en posant du parquet, en mettant de l'électricité, en posant des cloisons. Et je me souviens parce que j'imprimais des versets bibliques et puis on était à quatre pattes. Un parquet, ça se pose pas debout, hein, assis sur une chaise. On est à quatre pattes comme ça, à genoux, avec un marteau et puis on avance. Hein, on est en général sur le parquet et puis on clipse et on avance. Et on déplaçait nos feuilles. Donc j'avais copié plusieurs versets bibliques et il a mémorisé comme ça des dizaines de versets. C'est une encyclopédie aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a mémorisé la parole. Alors, j'étais pas en bateau, en voyage entre Béret et Thessalonique. J'étais dans une ville, dans un café, on était au même lieu, mais on faisait la même chose. J'avais pris ce compagnon sous mon aile et je l'accompagnais. Et une chose importante, c'est qu'à un moment donné, on devait être au bout de 2-3 mois, pour lui montrer que je lui faisais confiance, je lui ai dit, écoute, il me manque une boîte de vis, est-ce que tu peux aller l'acheter? Je lui ai donné ma carte bleue avec le code. Quand on confie sa carte bleue avec le code, c'est qu'on a confiance, je sais pas. Sinon, donnez-la-moi. J'espère que vous faites confiance à votre pasteur. C'est une blague, évidemment. Je vais pas vous demander votre carte bleue, mais quand on donne soi sa carte bleue avec le code, c'est qu'on fait confiance. Et c'est exactement ce que Paul va faire avec ces gens, c'est qu'il va leur confier la collecte, une collecte que les Corinthiens ont souffert pour donner cet argent. Il dit qu'ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient. Donc ils ont été grattés dans les fonds de tiroir, ils ont peut-être vendu des meubles, récolté de l'argent pour la famine qu'il y avait à Jérusalem. Et donc cet argent, il avait un poids particulier pour l'apôtre Paul. Il y avait probablement beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le confie à ces jeunes. C'est dire le niveau de confiance qu'il avait envers ces hommes. Mais c'est ça, en fait, la formation de disciples, c'est qu'à un moment donné, on va faire confiance à d'autres. Et c'est ce qu'on devrait faire ici, dans l'Église. Et là, je vous glisse une petite application, parce que je pense que c'est légitime. On cherche des gens dans beaucoup de domaines. Et ma question, c'est, est-ce que tu seras volontaire pour aller occuper un poste? Parce que les gens qui sont sur place et qui font toujours la même chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Fabien et Carlos sont quasiment là tous les dimanches. 9 dimanches sur 10. Imaginons qu'ils tombent malades. Qui va les remplacer? Et donc on a des besoins ici, mais c'est la même chose dans la sono. Ça fait des mois, des années qu'on cherche des gens et qu'on ne trouve pas, ou qu'on les trouve par intermittence. Ça marche 6 mois, puis après, on laisse tomber. Et Serge s'arrache les cheveux. Il n'en a plus. Ça fait tellement longtemps. C'est la même chose à la garderie, c'est la même chose à l'école du dimanche, et à tous les niveaux. Ça veut dire que vous pouvez simplement être là comme assistant. Moi, je garde les bébés dans la garderie quand il y a les moments de séminaire pour vous offrir ce privilège d'écouter des orateurs extérieurs. Ça, c'est, j'aime les bébés, donc c'est mon privilège, mais voyez, on a besoin là aussi. Et donc, il faut sacrifier, à un moment donné, de son temps, de son confort personnel, hein, le fait d'être assis sur la chaise et d'écouter le message. C'est super, c'est ce que j'étais venu faire le jour où j'ai dû prêcher. Et puis, je me suis levé et j'y suis allé. Et Dieu a utilisé. Dieu m'a utilisé. Gloire à Dieu. On a besoin aussi de foyers pour les maisons, pour développer l'église. Si on veut que l'église grandisse, il faut augmenter le nombre de groupes de maisons. Il faut qu'il y ait plus de groupes de croissance. Ça, c'est hyper important. Si on veut que notre église grandisse d'une manière saine, il faut développer nos relations les uns avec les autres pour que l'église soit forte. Quand il y a une division dans l'église, bien souvent, c'est que les gens ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de relations significatives. Et donc, on peut quitter l'église sans problème quand c'est comme ça. Mais quand on a des frères et sœurs à laquelle on est attaché, on va pas quitter l'église, c'est notre famille. Vous quittez pas votre famille à la première engueulade. J'espère. Bon, déjà, j'espère que vous vous disputez pas, mais si ça vient, ça peut arriver. Il y a le pardon, il y a la grâce, et on continue d'avancer. Si t'es une famille, tu restes. Si c'est pas ta famille, tu pars. J'envoie ma lettre de démission. On a observé ça. Ça fait 6 ans que je suis là, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens qui sont partis comme ça, parce qu'ils n'ont pas de relations significatives. Ils ne travaillent pas en équipe. Mais l'évangile ne progresse qu'en équipe, les amis. Pas tout seul. Allez, je termine ici. L'évangile progresse dans l'église rassemblée. Et vous avez vu ici, Luc, il donne une petite précision. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour à votre avis? Si vous êtes juif, c'est bien le dimanche. Mais ça peut être le samedi, ça pourrait être Shabbat. Mais il y a une petite précision. Paul qui devait partir le lendemain, et au verset, alors c'est plus loin, au verset 11, il dit le lendemain matin, vous savez, il prêche toute la nuit et le lendemain matin, et ça c'est un signe que c'était le langage romain qu'il utilisait. Et donc ici, on parle bien du dimanche. Et attention, c'était pas un jour congé, tout le monde avait bossé tout au long de la journée, d'accord? On n'était pas comme nous aujourd'hui des privilégiés où c'est temps vaqué, non. Tout le monde avait bossé, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi il s'est endormi. Imagine que tu aies travaillé toute la journée. Kevin, tu fais des bonnes journées, j'imagine. Allez, on fait un petit groupe de maison. Mais comme il n'y avait pas d'électricité, on met beaucoup de bougies pour y voir clair. Il commence à faire chaud. On est 60 dans une pièce qui peut en contenir 30. Vous imaginez ? Vous avez déjà vécu ce genre de choses, hein, une réunion de prière, on est 15 dans une toute petite pièce, au bout d'un moment, moi je suffoque, je vais dehors pour respirer. Et bien là, Eutychus est allé au bord de la fenêtre, probablement pour avoir de l'oxygène. Mais ça durait. On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé, mais en tout cas on sait qu'à minuit, il s'est profondément assoupi et il est tombé de la fenêtre. Alors quand on dit tomber de la fenêtre, c'était simplement une ouverture, hein. Il n'y voyait pas des vitres, hein. il n'y avait pas de fenêtre comme ça à l'époque. Simplement une ouverture, peut-être un drap ou un rideau improvisé. Quand on s'endort, le rideau, poum. Et là, ça durait l'entretien, hein, jusqu'à minuit. Et c'est intéressant parce qu'il dit qu'il s'entretenait avec les assistants. Ce n'était pas une prédication. C'était un entretien, c'était un dialogue. C'est pas du tout le même verbe que prêcher, kérousso. Non, là, il s'agit d'une discussion. Il n'y a pas de monologue, c'est vraiment une discussion. Comme dans un groupe de maison. Dans un groupe de maison, on peut discuter, vous voyez ? Parce qu'il y a des échanges. Même s'il y a un animateur, même s'il y a quelqu'un qui va présider la séance, il y a ce dialogue. Et c'est ce qui se passait probablement ici. Il y avait ces discussions. Et imaginez que vous soyez jeune converti et que vous en mettiez plusieurs. Mettez plusieurs Ludivines dans la même pièce. Vous savez, on l'a dans notre groupe de maison. Heureusement qu'on a fixé des horaires, parce que sinon, on peut y aller jusqu'à 2h du matin, sans problème. Je pense qu'on n'aura pas épuisé ces questions. Vous savez, il y en a un autre qui rigole, qui est juste à côté d'elle. C'est Philippe. On faisait le groupe de maison, il venait avec Thiéjou, quand il était à Dijon, il n'était pas converti encore. Et donc il y a le groupe de maison, terminé à 22h, et donc tout le monde s'en allait, et Thiéjou et Philippe faisaient exprès de traîner à la fin. Et c'était systématique, je les accompagnais à la porte d'entrée, et on avait une petite véranda, donc vous imaginez, 1m50, et ils m'attendaient là pour me poser des questions qui duraient largement plus d'une demi-heure, souvent une heure, hein. Parfois plus. Donc Sandrine se brossait les dents, elle disait « Moi, je travaille demain !» Et en fait, on avait des gens comme Philippe qui étaient curieux, qui posaient des questions. Donc imaginez un petit groupe où il y a plein de gens, des jeunes convertis, dans une salle comme ça. Eh bien, les discussions s'affusent, sachant qu'il allait partir le lendemain. « Purée, c'est la dernière fois où il y a l'apôtre Paul. Mais il faut qu'on le bombarde de questions, il faut qu'il réponde à toutes nos questions. » Et vous voyez, on est dans une circonstance où c'est normal, finalement, qu'il reste. Et Paul, lui, quand les gens ont faim et soif, ça le motive, ça le stimule. Moi, vous pouvez me laisser jusqu'à 3 heures du matin quand j'ai des questions. Alors, ça dépendra de la nature des questions, mais la plupart du temps, ça me stimule. Parce que ça m'oblige à prendre les écritures, à réfléchir. Et puis, je vois que la personne en face est intéressée et que ça transforme son regard, ça transforme son cœur. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de rester. Et ce qui se passe, ça va être dramatique. Mais il tombe du 3e étage. 8 mètres environ. Ça veut dire que ça fait mal, hein, la chute. Et il n'est pas tombé sur de la paille, parce que Luc, qui est médecin, lui dit « Il fut relevé mort ». Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il était mort. Et il y a quelque chose de surprenant ici, c'est que, en fait, ils étaient donc en plein culte, hein, premier jour de la semaine, ils se rassemblent pour prendre la Sainte Cène, ce qu'on va faire juste après, ils prêchent, alors il y a des discussions, boum, ils tombent, ce jeune homme, Eutychus, meurt, Paul descend, il regarde tout le monde, dit « Vous inquiétez pas, son âme est encore en lui », ou « Son âme est revenue à lui ». L'âme, c'est la séparation du corps. Pardon, la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et donc, quand il dit que l'âme est revenue, c'est qu'il est vivant. Mais tout le monde a constaté qu'il était mort. Même le médecin, Luc. Donc là, il se passe un miracle extraordinaire. Et ce n'est pas n'importe quel miracle. Parce que c'est le genre de miracle que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez probablement dans les rois. La veuve de Sarepta, qui c'est qui va guérir son fils ? Élie. La tsunamite, qui c'est ? Élisée. Et ensuite, bien sûr, Jésus qui va ressusciter Lazare, mais pas que. Il va en ressusciter d'autres. Et en fait, ici, on voit un parallèle. Il faudrait relire tout le livre des Actes, les amis, mais refaites-le. Ça prend pas longtemps. Hein. 1h30, vous aurez lu le livre des Actes, à peu près. Et donc, vous relisez le livre des Actes et faites le parallèle avec Pierre. Je vous l'ai mis dans un tableau, mais c'est passionnant de regarder ça. En fait, au début, on parle beaucoup de Pierre, jusqu'au chapitre 12. Bon, il y a la conversion de Paul au chapitre 9, mais quand même, on parle énormément de Pierre au début, et ensuite, on parle de Paul. Et Luc sélectionne, parce que, vous imaginez bien, 30 ans résumés dans 28 chapitres, il y a beaucoup de choses qui ont été zappées, mais il va garder l'essentiel, et on peut faire ici le parallèle entre les miracles que va faire Pierre et les miracles que va faire Paul. Tout ça pour authentifier l'apostolat de l'apôtre Paul, qui ne faisait pas partie des 12. Et Paul, il a toujours galéré avec ça. C'est que les gens ne le considéraient pas comme l'apôtre de Jérusalem. Et oui, il était d'Antioche. Sauf que lui, il a été ravi au ciel, il a vu le Christ ressuscité, et donc il avait une légitimité. Mais souvent, il s'est battu. Toute l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, c'est une justification de son apostolat. Donc ici, vous voyez le parallèle entre lorsque Pierre guérit, on voit l'apôtre Paul qui guérit. Et à chaque fois, vous voyez ce parallèle jusqu'à la résurrection de Tabitha. On l'a vu au chapitre 9, et ici avec Eutychus. Donc Pierre va guérir Tabitha, et Paul va ressusciter ici Eutychus. Et donc on voit vraiment ce parallèle qui est, c'est lumineux pour moi, parce que en fait, on veut justifier que Paul est un véritable apôtre et que donc on peut le suivre. Allez, je conclue ici. Je reviens à mon petit dimanche parisien. Je vous ai raconté comment je me suis retrouvé derrière un micro, sans préparation, fatigué, dans une assemblée que je ne connaissais pas, pour des gens dont j'ignorais le besoin. Et puis cette dame qui m'a dit « Comment saviez-vous que je doutais de la véracité de la Bible ? Vous avez répondu point par point à toutes mes interrogations. » Moi, je n'avais pas su à l'avance qu'elle était même dans cette salle. Je ne la connaissais même pas, cette dame. Je n'avais rien d'elle. Mais Dieu, lui, il savait. Dans sa providence, il savait tout. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici dans ce passage ce matin, dans Acte 20. Paul, il change de cap, mais il savait exactement où il allait. Il avait des objectifs, des priorités, et il va toujours poursuivre ces priorités-là. Quand il y a un obstacle, il ne s'arrête pas. Il réfléchit, il prend une décision et il avance. Et s'il y a un miracle, s'il y a une vision, il écoute, il en discute avec son équipe, acte 16, et ils en décident qu'il faut aller dans telle direction. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle absolue dans la manière d'être dirigé. Parfois Dieu peut faire un miracle, rarement, mais la plupart du temps, il nous demande d'avancer par la foi. Alors ce matin, je ne sais pas si tu es de cette église en tout cas, est-ce que tu stagnes ou est-ce que tu avances? Est-ce que tu es devant une situation que tu juges importante, mais tu n'oses pas avancer? Peut-être que tu as un blocage, tout simplement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le texte ce matin t'encourage à avancer par la foi. Fais confiance à Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Il peut avoir des portes fermées. Rien n'empêche que tu fasses demi-tour. Peut-être une fréquentation qui n'est pas la bienvenue, tu peux faire demi-tour. Peut-être que c'est un collègue, des relations dans l'église, j'en sais rien. Il y a tellement de situations qui peuvent être des points de blocage. Dieu nous dit, ok, reviens en arrière peut-être. Est-ce que tu marches seul? Peut-être que vous venez simplement le dimanche au culte. Pas de relation avec les frères et les sœurs la semaine. Eh bien, ce matin, tu peux peut-être réfléchir à la stratégie de Paul. Il marchait en équipe, il était entouré. Peut-être que, et moi je pense que c'est un des plus grands besoins que nous avons, nous, c'est de former d'autres. Quand Timothée est dans le fond du trou, il lui dit dans le premier chapitre, dans le premier épître, 1 Timothée 5, quand tu as des problèmes d'estomac, tu prends des médicaments, tu mets un peu de vin dans ton eau, genre médicament. Quand tu as un coup de déprime, Timothée, vous savez ce qu'il lui dit? Il dit déjà, appuie-toi sur l'esprit et sur la grâce. 2 Timothée 2, verset 1. Puise tes forces dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ok? Première chose. Deuxième chose, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Fais des disciples. Si tu déprimes, fais des disciples. Ça, c'est le remède. C'est le remède. Alors au pasteur, parce que Timothée était un pasteur, mais moi, je pense que c'est plus large. Si on est tous embarqués dans le discipulat, je peux vous assurer que vous allez grandir beaucoup plus vite que ce que vous l'imaginez. Parce que vous allez être obligé de lire votre Bible tous les jours. Parce que vous avez demandé à votre disciple de le lire, vous serez bien obligé de le faire. Sinon, vous serez un gros hypocrite. Ça va vous challenger. Je ne dis pas ça en rigolant, les amis. Ça peut vous faire sourire, mais faire des disciples, c'est essentiel à votre vitalité chrétienne. Faire des disciples, c'est la mission qu'il a confiée à son Église et à tous les niveaux. Alors vous ne vous sentez peut-être pas apte, mais au moins rejoignez un groupe, ne restez pas seul. Le diable, il attend qu'une chose, il vous isole et il va vous dévorer tout cru. Quand on est en équipe, il y a toujours un qui va dire « hop, là ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire, je pense que tu oscilles là, mais tu n'es plus dans la ligne. » Vous voyez, il y a toujours quelqu'un pour nous rattraper, pour nous aider, pour nous assister, pour nous paracaléo, nous exhorter. C'est notre ministère, c'était le ministère de Paul. Et ce matin, si tu ne connais pas encore Jésus, tu es peut-être là comme Eutychus. Tu es assis en marge, fatigué, pas vraiment sûr de ce que tu fais là. Tu as peut-être aussi des doutes, comme cette femme à Paris. Sache que ce n'est pas un accident, que tu n'es pas un accident et que ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Laisse-moi te dire ce que Luc te raconte ce matin dans cette scène, au travers de cette scène. Eutychus, il était mort, hein. Il n'était pas blessé, il n'était pas évanoui, il était bien mort. Incapable de se relever tout seul, incapable de faire quoi que ce soit pour changer sa situation. Et la mort, c'est précisément ça en fait, c'est une incapacité de faire quoi que ce soit. Eh bien c'est exactement ce que la Bible dit de l'homme qui est livré à lui-même, qui est tout seul. Qui n'a pas un capitaine à suivre. Elle dit en Éphésiens 2, vous étiez morts par vos fautes et par vos offenses. Et donc la Bible dit que tu es mort spirituellement, tu n'es pas malade, tu es mort, incapable de créer une relation avec Dieu par tes propres forces, incapable de te sauver toi-même. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste un diagnostic ici. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu peut intervenir souverainement dans ta vie, exactement comme il est intervenu dans celle de Tychus. Il peut se pencher sur toi, il peut te relever, il peut te redonner une vie que tu n'aurais jamais pu produire toi-même. Il te demande simplement une chose, reconnaître que tu es Eutychus. Reconnaître que tu es tombé, que tu es incapable de te relever seul et que Dieu seul peut le faire. Jésus est mort sur une croix pour porter le poids de tout ce qui te sépare de Dieu. Et il est ressuscité le troisième jour, victorieux de la mort, victorieux du péché. Et il t'offre gratuitement, par la foi, cette vie nouvelle, si tu te tournes vers lui. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à mériter, tu as juste à recevoir. Comme Eutychus, il s'est fait relever, vivant. Et il a été rendu à sa communauté. Et le texte dit que ça a été une grande consolation. Et c'est peut-être ta consolation ce matin. C'est ma prière.